Petite rappel pour le livre de Juste, ceux qui ne sont pas avec nous sur la session d'hiver. Le livre de Juste rappelle cette. Moi, je vais lire la dernière. 21-25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et il y a cette pensée-là, cette mentalité-là en Israël, mais il y a aussi cette rébellion successive, qu'à chaque fois, ils se rebellent et à chaque fois, Dieu envoie des pays qui les oppriment. Et puis, après ça, ils se tournent vers Dieu, puis Dieu envoie des juges pour les sauver. Donc, c'est cyclique comme ça tout au long de l'histoire des juges. Mais en même temps, on voit des détails dans l'histoire, ce qu'on va voir aujourd'hui, qui n'est pas vraiment cette horde de rébellion, mais surtout cet orgueil démesuré des autres qui a causé plein de dégâts. Mais il y a aussi cette limite des hommes pécheurs que Dieu y utilise dans la vie. Donc, la dernière fois, on a vu que Dieu peut faire l'histoire dans des crayons tordus, peut écrire l'histoire dans des crayons tordus, comme ça. Mais un petit rappel pour cela, Jephté, rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Homme qui connaît bien l'écriture, zèle sincère, mais manque de discernement biblique. Il connaît l'écriture. Mais Dieu a déjà donné la victoire à lui, mais à cette victoire-là, il va encore dire, je vais offrir un sacrifice, ce qui va sortir sur ma porte, la personne qui sort le premier sur ma porte, donc c'est sa fille, donc elle n'a pas d'héritière, il n'a pas d'héritière, il n'a pas d'héritier. Non plus, c'est sa seule fille. L'Écriture mentionne bien que c'est sa seule fille. Dieu agit parfaitement, même quand ses instruments ne le sont pas. Le vrai danger peut venir de l'intérieur de moi, mais pas juste de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi. Donc, il faut bien faire, la dernière fois, il faut bien faire attention. Garde à ta bouche de ne pas prononcer de vœux devant l'Éternel ou quelque soit comme ça. Aujourd'hui, on va voir juste 12. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Oui, 12, 1 à 15.
Les hommes d'Éphraïm se groupèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, pourquoi es-tu passé pour aller combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur dit, j'ai été en grand conflit, moi et mon peuple, avec les Ammonites. Et quand je vous ai convoqué, vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Voyant que tu ne venais point me sauver, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm et disaient, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Vous autres de Galaad, au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des rives du Jourdain, du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fugitifs d'Éphraïm disait, je voudrais passer, les hommes de Galaad lui demandaient, es-tu Éphraïmite? Il répondait non. Il lui disait alors, eh bien, dis, Shibboleth. Et il disait, Sibboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi des hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des rives du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé le Galaïte mourut et fut enseveli au milieu des villes de Galaad. Après lui, Ibsam de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils et 30 filles qu'il maria au dehors. Il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibsan mourut et fut enseveli à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut et fut enseveli à Ayalon dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils de Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 armes. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils de Hillel, le Piratonite, mourut. Il fut enseveli à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites.
Cette remarque, il y a un juge 8 qui a causé la querelle. C'est Éphraïm encore. Et c'est quoi la cause? La même chose. La même chose. Mais en juge 8.
C'était quoi cette même chose?
Pourquoi tu es allé combattre sans nous? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a une suite là. C'est pas.
La dernière fois, il voulait avoir une partie de la gloire pour.
Ah, c'est ça. Parce qu'il y a la victoire. C'est ça. Parce que la victoire, mais il voulait qu'il soit au premier loge, là, à mon avis. On soit être au premier loge. Les héros, les vaillants. Mais Gidéon l'a pu calmer. Ah, mais c'est vous qui a... On va lire un peu, là. Juge 8, 1 à 3.
Les hommes d'Éphraïm lui dirent, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appris quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Il leur répondit, qu'ai-je fait maintenant en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange de Eliezer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa.
La différence ici, c'est que Jephté est petit, et Jephté va dire, moi, c'est pas Jephté, Gidéon est petit, moi je suis le plus petit de la famille, mais Jephté c'est pas un petit, hein. c'est un vaillant, et Jephté. Puis, la différence aussi, c'est que Gidéon a encore d'autres tâches à faire, donc pour finir la tâche, il faut calmer les autres, là, il faut calmer les siens, là, non, vous êtes forts, vous êtes des vaillants, vous êtes... Ce n'est pas un bon compliment, mais c'est quand même une bonne stratégie. Mais ici, la différence, c'est qu'ils voulaient aller plus loin, les Éphraïm. Qu'est-ce qu'il a dit là? Nous voulons incendier ta maison et brûler avec elle. Ouais, ça c'est quand même violent, mais cet homme-là, on va voir la suite là. Peut-on penser que la tribu d'Éphraïm ne supporte pas les succès des autres? Bah, c'est une question. Des exploits sans leur intervention ne sont pas des vrais succès. Le châtiment de l'orgueil d'Éphraïm va être lourd. Peut-on lire le 12, 2 à 3, s'il vous plaît?
Jephté leur répondit, j'ai été en grand conflit, moi et mon peuple, avec les Ammonites, et quand je vous ai convoqué, vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Voyant que tu ne venais point me sauver, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre?
Wow. Donc, il y a les arguments, la réponse de Jephté. Premièrement, la patrie est en danger. Non-assistance de personne en danger. Donc, il est parti. L'indifférence des Éphraïm, ce n'est pas vraiment dit dans Juge 11 qu'il y a cette indifférence, mais d'après l'histoire, d'après ce... Jephté ne veut pas inventer ça tout d'un coup. Il est quand même un homme de parole. Il a gardé sa parole et il a donné sa fille pour pour Dieu. Donc, c'est pas, il ne va pas inventer tout ça tout simplement. Mais il y a il y a une convocation des Éphraïm, mais ils ne sont pas venus. L'héroïsme, j'ai exposé ma vie. Et la plus importante dans ça, c'est l'action divine. Ils ont oublié l'action divine. C'est qui a appelé Jephté? C'est Dieu. C'est Dieu qui a appelé Jephté. C'est lui qui a choisi. Mais c'est Dieu aussi qui a donné la victoire. Donc pourquoi tu vas dire... C'est comme une façon de dire que le plan de Dieu, ça ne marche pas pour nous, là, avec les Éphraïm. D'après moi, là, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Mais les Éphraïm disent non, 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 c'est pas toi. Ça devrait être nous.
Je trouve que si tu lis Gédéon, il est beaucoup plus diplomate que Jephté. Jephté, il leur met les points sur les i.
Oui. Mais ça montre que c'est une personnalité différente, vraiment, vraiment différente. Même la façon dont Dieu a répondu à Dieu pour son appel, là, c'est pour sa mission, c'est vraiment différent.
Au lieu de glorifier Dieu avec Jephté pour sa victoire, il s'oppose à lui.
C'est ça. À Dieu. C'est ça.
Au plan de Dieu, en fait. Mm-hmm. Parce que la réponse d'un peuple de foi, ça aurait été de glorifier Dieu avec Jephté. Mais on n'était pas là, mais Dieu a fait quelque chose de grand.
Mais dans toutes les histoires qu'on a vues, l'Éphraïm n'est pas un modèle.
Non,
ce soit
non.
Mais la question que je me posais là, mais pourquoi agit-on comme ça là? À quel point de ma vie, moi je vais tourner à moi-même là, à quel point de ma vie je peux être comme un Éphraïm qui ne voit pas l'œuvre de Dieu, mais qui cherche à me glorifier moi-même dans toutes les facettes de ma vie. Moi, je dis, ok. Parce que là, c'est pas comme genre... c'est deux fois dans une même histoire, c'est que... Et l'histoire, c'est... Moi, l'histoire, l'histoire biblique, c'est sélectif. Donc, quand il va mettre une emphase sur quelque chose, là, c'est que... Il devrait avoir une chose importante à retenir dans l'histoire. C'est pas comme là l'histoire comme l'histoire d'un film ou d'une série comme ça là, mais c'est l'histoire biblique. C'est censé être apprendre l'histoire. Mais c'est quoi? Comment peut-on être orgueilleux comme ça là dans la vie, à être aveuglé de l'œuvre de Dieu dans la vie des frères? Ben, je pose la question à nous, à vous.
L'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Philippiens, il leur dit que personne agisse avec un parti pris ou une vaine gloire. Quand on veut travailler tout seul dans notre coin, dans l'église, on cherche une gloire personnelle, on ne cherche pas la gloire de Dieu. L'Église, c'est l'unité en Christ. On le voit dans l'Ancien Testament, c'est un exemple assez frappant. Mais dans le Nouveau Testament aussi, on est exhorté à travailler en équipe, en fait, puis à chercher ensemble la gloire de Dieu, pas chacun notre côté, faire notre petite affaire. Puis... Mm-hmm.
Mm-hmm. Aussi de la gêne, aussi, parce que c'est ça. Parce que Jephté a eu l'honneur de gagner, puis là, il voit les Éphraïmites, fait qu'ils sont gênés de sa gloire, puis tout ça. Puis dans nos cas, ça nous arrive aussi des fois. Dans l'Église, c'est bon, quelqu'un sert Dieu, puis nous, on veut tous servir Dieu. Mais quand quelqu'un sert vraiment bien, on va dire, parce que ce qu'il a fait, puis on se compare.
Pourquoi?
C'est ça. Puis on est porté à ça. Mais il faut vraiment, vrai, comme a dit Mme Darbois, vérifier Dieu dans tout ça. Par qui que ce soit. Ça passe par qui que ce soit.
Ouais.
Ça nous parle du cœur d'Éphraïm aussi, pour Dieu. Éphraïm n'est pas près de Dieu. Il n'aurait pas eu une réaction comme ça si ce peuple-là était près de Dieu. Et c'est pas possible, c'est pas compatible, en fait.
OK.
Mais est-ce que c'est pas peut-être, on parlait au tout début, on voyait que Dieu laissait ces peuples-là pour attaquer Israël. Il veut enseigner à Israël une leçon. Ce qu'on voit dans la vie d'Éphraïm, ben, c'est pas nettement différent dans la vie d'Israël, du peuple d'Israël. Israël, ils ne font pas la raison. Ils sont rebelles. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu.
Ils sont pas différents des autres. C'est juste que leur Dieu est différent. Ils ont un grand Dieu. C'est ça, comme nous, en fait. On n'est pas différents des autres êtres humains, mais on est sauvés par la grâce.
La grâce de Dieu dans nos vies.
La deuxième accusation qui a provoqué la guerre, c'est cette mention-là. Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Éphraïm, Manassé, Galad, ce sont des frères. C'est vraiment très proche, mais on va voir l'histoire, pourquoi c'est proche, là. Mais ils sont de la même famille. Vous êtes entre de Galad, au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Cette guerre est vraiment une guerre entre frères. Et c'est pas comme tu vas aller à Juta ou à là, mais chez toi, là, à la maison, guerre civile, ben c'est ça l'effet de tout cela. J'essayais de trouver une carte qui n'est pas drôle, mais vous voyez le West Manasse, East Manasse. Le quai de Jourdain. Et le Chiboulette et le Vieux Chiboulette. Chiboulette, Vieux Chiboulette. Comme par exemple, comme moi, je m'en ris là. Répète-toi, moi. Il n'est pas, mais c'est juste comme ça. Moi, parce que l'autre, il a l'habitude. Moi, je me pensais à l'action là, parce que c'est vraiment comme une action rapide. Parce que toi, tu es devant le danger, donc tu as cette capacité de survivre. Donc peut-être c'est vraiment rapide. On va questionner. Chiboulette ou ciboulette. Si c'est ciboulette, on va le tuer. Donc c'est comme ça. Moi, parce que dans la vie, dans ta vie quotidienne, tu es vraiment très rapide pour répondre à ça. Mais en fait, c'est une langage quotidienne dans le pays, dans la région. Mais c'est juste un petit nuance qui fait que pour connaître qui est qui, et on va le tuer. Mais c'est là même. Endroit, c'est la même pour s'enfuir de l'autre côté et de l'autre côté. Mais là, c'est que j'ai plus lu dans la. C'est pas le sens qui est important, non. Mais c'est l'accent. C'est l'accent qui est. Mais il a. Bah, je me souviens pas parce que je voulais pas. Bah, je dis ça. C'est quoi? C'est courant. C'est comme courant.
Ben, c'est
courant.
Bizarre, parce que courant. Quand j'étais jeune, mon patois c'était Ciboulette.
Mais est-ce qu'une raison pour tuer autant de monde? Est-ce qu'une raison pour tuer autant de monde?
Ben, c'est ça.
C'est pas le cœur, là.
C'est, Ça vient d'Éphraïm, cela. Mais il est devant Jephté. Jephté, il a dit, là. La dernière fois que je suis sorti au métro, il a voyé l'écriture, trois questions pour un Bible gratuit. Ah, je te dis, dis à ton Dieu d'arrêter les génocides, oui. La Moyen-Orient, c'est quoi ça, génocide au Moyen-Orient? Est-ce qu'on peut parler de ça? Si ton Dieu peut arrêter le génocide au Moyen-Orient, moi je vais aller dans ton église. Mais dis maintenant parce qu'il est tout puissant. Okay.
C'est ta cause, c'est ta cause.
c'est comme ça. Comme les athées, pourquoi il a autant de mal, mais il a un bon Dieu. Et Dieu est bon, mais il permet le mal. Ben c'est quoi?
C'est pas juste les athées, là. Même dans les gens qui ne comprennent pas l'évangile, ils ne comprennent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent raisonner comme ça, et même souvent des chrétiens, face à certains malheurs, ils raisonnent comme ça.
Mm-hmm. Quand quelqu'un dit que Dieu est bon, pourquoi qu'il permet ça? Oui, Dieu est bon, c'est un problème pour toi parce que toi, tu es mauvais. Donc, si Dieu est bon, il n'a pas la bonne chose, puis il devrait te punir tout de suite.
Oui, c'est ça. Mais en fait, l'homme ne peut pas s'auto-évaluer lui-même. Ben, il a un ami qui a dit, « Ah, gars, voyez mon explication, c'est quoi, moi je suis nul en sciences, je suis nul en mathématiques, mais il a fait des trucs de sciences. Ah, les atomes, 1000, 10 000, 10 000, il faut que ça soit... Ah, je comprends plus son explication, mais il faut qu'il ait une intelligence qui est vraiment... supérieur pour être pour permettre à un homme, juste un homme ou une cellule de fonctionner. Ok, mais moi je dis, parce que moi je vais pas, est-ce que les gens au temps de Jésus a vu Lazare qui est déjà, tout le monde a dit, ah, ça va sentir là, mais Lazare il est sorti du tombeau, mais tout le monde a dit on va le tuer. Lazare en personne, la Bible a dit ça va sentir. Mais Dieu, ah non, Jésus a dit, ouf. Tout devant tout le monde a dit non. En fait, cette auto-évaluation de soi, même pour vous voyez l'histoire des grandes puissances actuelles là, c'est comme ça que ça a commencé avec l'URSS et les États-Unis après la guerre. Mais ça a monté petit à petit et ça va être une course aux armements jusqu'à aujourd'hui. On va voir cette petite, c'est pas une petite mais peut-être avec Abimelech, fils de Gédéon et Jephté. Deux personnages un peu identiques, l'origine, mais deux exploits différents. Est-ce que quelqu'un peut lire le Juge 8, 31-32 et le Juge 1-1 et ainsi de suite pour les 4. 1, 2, 3, 4. Moi, je vais prendre le Juge 9, 4 et 11, 3.
Sa concubine, qui résidait à Sichem, lui donna aussi un fils qu'on appela Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le tombeau de son père Joas, à Ophra, village de la famille d'Abiézer.
11, 1.
Jephté, le Galaadite, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galaad.
Abimélec, fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla ainsi qu'à tout le clan familial de sa mère. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël, et comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre capitaine et nous combattrons les Ammonites. » Jephthé répondit aux anciens Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?»
Juste 9.4. Ils lui donnèrent 60 disciples d'argent du temple de Baal-Périth. Avec eux, Abimélec embaucha des hommes de rien et des aventuriers qui le suivirent. Il vint dans la maison de son père Ophra et tua ses frères, fils de Opal, 70 hommes sur une même pierre. Il ne resta que Yotam, le plus jeune fils de Yerubbaal, car il s'était caché en Stroa. Et Jephthé prit la fuite loin de ses frères et habita dans les pays des Tob. Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui.
5. Il vint dans la maison de son père à Ophra et tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes, sur une même pierre. Il ne resta que Yotam, le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Acte 12, 6. Hérode.
Non, c'est juste.
C'est l'action.
Je m'excuse.
Juge 12-6, oui. Et lui disait alors, eh bien, dis Shibboleth. Et il disait Shibboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgèrent après le quai du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm.
La question se pose, l'origine est la même. Parce que, Abimélec, c'est un descendant d'une servante. C'est pas un fils légitime. De même pour Jephthé, il est fils d'une prostituée. Mais il s'est taché loin. Les frères les a tassés loin pour qu'il ne prenne pas part au royaume. Et le problème avec ça, c'est que Lot est appelé par Dieu et Lot a fait des campagnes pour être roi. C'est-à-dire que c'est lui qui a forcé lui-même à être roi. Mais Lot, c'est Dieu lui-même qui l'a appelé à une mission pour Israël. Est-ce qu'il y a la ressemblance, il est là. Mais pourquoi Dieu n'utilise pas l'autre, mais utilise l'autre? Et c'est la même origine, dans ce cas.
Est-ce qu'on peut répondre à ça?
Oui.
Je peux pas.
Abimélec n'est pas
Un libérateur.
Mais c'est Abimélec qui est le plus qualifié par descendance, pas Jephthé, par descendance. Moi, je dis par descendance parce qu'il est fils de Gédéon. Mais Jephthé, c'est un fils de Galaadite. C'est un village.
Mais aux yeux humains, c'est ça. Abimélec est plus qualifié, mais pas aux yeux de Dieu. C'est ça exactement. Dieu regarde au cœur et pas à la terre.
Et il qualifie.
Mais le problème avec ça, c'est que il a la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu fait grâce à ce qu'il aime. À qui il veut. C'est ça. À qui il veut faire grâce. C'est la... En fait, si vous comprenez...
Est-ce que dans la position de Dieu, pourquoi tu choisis même par
C'est ça, c'est ça, c'est ça. On peut pas dire ça. C'est ça le plus important. On peut pas dire ça parce que Dieu a ses raisons. On peut rien faire. Parce... Pourquoi tu as... Moi, je suis un petit malgache de Madagascar, mais il m'a choisi. Pourquoi moi? Pourquoi? Moi, je vous dis, quand j'étais petit, je suis conscient de ça. Je tabassais les autres qui à côté de moi, je vole tous les goûters dans leur sac.
Qui est pas coupable de ça?
même ma cousine, quand parce qu'à Madagascar, toute la famille vit à côté de chaque. Quand ma cousine, elle va venir chez nous pour manger le soir, elle va tout terminer là. Ben, c'était moi là à l'époque, mais moi je dis pourquoi Dieu m'a choisi même si c'était comme ça là. C'est ça. C'est la grâce. On peut. Ben, si on va tourner à notre histoire nous-mêmes là, c'est que.
Mais pour. Que Dieu choisit les choses folles du monde. Je me qualifie comme une chose folle. Dieu m'a choisi.
Quand on regarde notre passé, on dit merci.
En fait, le.
Non, ce que Dieu a choisi, que ce soit Moïse ou Jérémie ou d'autres, il ne se sentait pas capable. Non. C'est vraiment Dieu qui a fait ça.
Mais est-ce que Dieu agit aussi? Dieu a choisi Jephté parce qu'il choisit d'agir par Jephté. Ça ne veut pas dire que son plan c'est ça. Pendant que nous on lit ce récit, ça a un impact aujourd'hui sur nous, ça a eu un impact sur d'autres personnes autour à cette époque-là. On peut pas mesurer l'impact du choix de Dieu dans ça. Mais c'est sûr que c'était le meilleur choix.
Ouais. Mais c'est pas tordu. C'est juste. c'est nous qui fait comme tordu, mais Dieu n'est. En fait, c'est que. Tout ce que j'ai pu dire, c'est que. L'œuvre de Dieu est parfaite. L'œuvre de Dieu est parfaite. On peut pas se. Et c'est ça que. Moi, la triste nouvelle est tombée, là, moi, je dirais que. Il n'y a rien de mauvais dans ce que Dieu a fait pour nous et pour tout le monde. En fait, c'est que c'est nous qui a voulu se tasser. Mais lui, il est là. Il est toujours là. Dieu est toujours là. Toujours là. Et juste un petit remarque. Des personnes à Madagascar qui vont dire peut-être moi je me suis trompé de pays. Beaucoup de gens disent ça. Mais si je compare juste le pays, mais pas l'état politique, mais le pays, mais je trouve que le potentiel dans le pays, c'est vraiment immense. À Madagascar, tu peux cultiver de janvier à décembre. Mais ici, on ne peut pas cultiver de janvier à décembre. Mais on est quand même bien. Mais si à Madagascar, si, moi, je dis que c'est pas que tu es que Dieu t'a mis dans un mauvais pays, mais parce que c'est l'homme qui a fait tout ça. Pour que ça soit comme ça. C'est faute de l'homme, parce que tu as toutes les richesses. Tu as toutes les richesses, mais tu ne peux pas exploiter la richesse que Dieu t'a donnée. Et tu as dit, moi je suis dans un mauvais... Je me suis trompé de pays, c'est quand même...
Et souvent, ça comme... quand on veut se comparer aux autres. Et Dieu nous dit tout simplement de contentez-vous.
Oui.
partout dans la ville.
Comme en Inde, il y a récemment une nouvelle là qui dit que la personne va porter plainte pour ses parents. Pourquoi? Parce que il faudrait que il soit d'accord pour être fils.
Quelqu'un d'autre?
Pourquoi vous mes parents, mais pourquoi pas l'autre? On va magasiner nos parents là. C'est pas à nous de faire ça. Et c'est ça le.
Pour moi, si je parle pour ma vie personnelle, c'est quand même honteux pour moi de le dire, mais c'était comme ça. J'avais honte de ma famille, de mes parents, parce qu'ils n'étaient pas aussi riches que les autres. Je suis brisé dans une famille chrétienne, et c'est le péché en moi, en me comparant aux autres autour de moi, je dis, mais je serais mieux dans cette telle ou telle famille. Et aujourd'hui, quand on regarde ça, tu vois, merci Seigneur, parce que tu m'as élevé dans cette famille-là.
Seigneur, est dans le plan.
Oui.
Avec les défis de nos familles, avec
l'État.
L'État, puis il y a un plan, il nous forme à travers ça.
Oui, amen.
Jephté fut juste 6 ans et mourut. C'est une transition de l'histoire vers la providence silencieuse de Dieu. Parce qu'après ça, est-ce qu'on peut lire 12, 8 à 15, s'il vous plaît?
Après lui, Ibstan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils et 30 filles qu'il maria au dehors. Et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibstan mourut et fut enseveli à Bethléem. Après lui, Hélon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Hélon de Zabulon mourut et fut enseveli à Ayalon dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils de Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 ans. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils de Hillel, le Piratonite, mourut et fut enseveli à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites.
36 ans. Il n'y a pas la différence, absence d'oppression ou de temps de repos. On mentionne pas ça dans cette histoire-là, mais juste l'histoire des justes, ce qu'ils faisaient, une vie banale qui est différente de l'époque des autres justes. L'époque des autres justes, c'est qu'il y a cette oppression, il y a cette rébellion d'abord, puis oppression, puis cette cri vers l'Éternel, puis l'Éternel qui envoie des juges après. Mais là, c'est que il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et c'est Dieu qui agit.
Abdon avait 70 fils qui étaient montés sur des ânes, et ça nous dit aussi qu'il avait une certaine puissance. Parce qu'il avait comme quel autre qui avait aussi des fils qui fondaient des villes avec.
Oui, mais en fait, c'est que les points essentiels de l'histoire, nombre d'enfants, demeure étranger, la puissance qui est là.
Mais on prend aussi dans ce texte, c'est pas caché, mais c'est moins évident.
Demeure étranger, mais j'ai juste une question.
Oui.
J'ai juste une question, c'est dans ma version, ça dit qu'il a marié ses fils, mais ici c'est marqué. Il fit venir pour ses fils 30 filles, mais dans ma version, ça dit d'autres tribus, alors que dans sa version, ça dit du dehors. Donc, est-ce qu'il a fait venir parmi les enfants d'Israël des filles pour ses fils, ou il est allé chercher dans des peuples étrangers des filles pour ses fils? C'est pour ça, des mères étrangères, je me questionne.
En fait, c'est que, d'après moi, si c'est comme, c'est ça, c'est mon interprétation. Si c'est comme, si la Bible va dire qu'ils se marient entre eux, c'est-à-dire que c'est, c'est dedans. Mais s'il va dire dehors, c'est vraiment dehors. Puis il y a, c'est étranger, c'est vraiment étranger. Mais c'est qui? Et d'après moi aussi, c'est qui n'est pas l'ordre de Dieu.
Je crois aussi que dans ce contexte-là, nous disons que c'est il y a plein de peuples que Israël n'a pas chassé. Et qu'ils vivent autour d'Israël, là, et puis l'influence, je pense que c'est l'idée, j'aimerais qu'ils voient comme ça, d'aller chercher des femmes parmi ces personnes-là. Alors que Dieu les a dit, ça, que l'Israël ne devrait pas aller chercher des femmes pour leur fils dans les autres nations, les païens. Eux, ils n'ont pas loin à aller, là, c'est autour d'eux. Ils vivent ensemble, ils ne les ont pas chassés.
Oui, c'est ça. C'est ça le problème.
Les Hittites, c'était des tribus aussi. Alors, on ne sait pas. C'est curieux qui va être comme. Je me questionne. Parce que ça fait une différence quand même dans le récit. Là. S'il va chercher dans d'autres tribus ou s'il va chercher chez les peuples étrangers qui habitent tout près autour, c'est pas pareil. C'est pas le même. Oui,
parce que je pense que vous l'avez vu, vous avez donné la parole. Mais par curiosité, c'est quoi vos versions?
Ma version, c'est... Je ne sais pas, c'est comment. Je pense que c'est selon mes
vieux. Parce que je pense que dans la langue originale, c'était référence à dehors, mais communément, c'était connu comme étant comme... C'était interprété comme étant dans d'autres tribus.
Okay.
Mais souvent...
C'est bon.
La coutume, c'était souvent qu'on se mariait dans une même tribu, mais c'était pas interdit non plus de se marier avec ça, la tribu, tant que c'était dans le peuple.
C'est ça que je
même le peuple d'Israël, mais comme dans les peuples spécifiquement qui avaient dit de ne pas marier, tu sais, les Éthiopiens, les Égyptiens, les Hittites, même les Philistins en tant que tel, c'était pas un peuple qui était prohibé explicitement par la Bible de marier, tu sais. Même Samson, quand il
mariait
les Philistines, c'était pas explicitement interdit, mais c'était pourquoi est-ce que tu t'en vas chercher une fille au dehors si tu pouvais te marquer avec
quelqu'un à
l'intérieur? C'est ça. Fait que c'est. Oui, même à l'extérieur du peuple, c'était possible techniquement, mais encore dans Israël, c'était vraiment l'idéal comme ici.
Mais on voit l'impact que ça a eu aussi sur Israël, le fait d'aller marier des femmes étrangères,
en fait. Je pense que ça vient même de que Dieu demande de son peuple. Tu as une conduite, une adoration. Tout ça se fait en fonction de ce Dieu-là. Il choisit son peuple. Il doit vivre pour son Dieu. Et que son peuple ne devrait pas se mélanger aux autres dieux. Parce que ça, on voit l'histoire de Samson. De Samson, oui, mais de Salomon. Puis David met en garde contre, je pense que aller se marier dans ces autres personnes, dans ces autres tribunaux, qui n'ont pas, ne servent pas de vrai Dieu. Et parmi ces gens-là, il y en a qui ne servent pas de vrai Dieu. On l'a vu dans nos chapitres. Ils adorent les tartantés, les autres peuples. Mais pour moi, c'est comme ça que je comprends. La minute que tu te vas à l'extérieur, c'est des personnes qui ne servent pas de vrai Dieu.
C'est ça
que je comprends.
Ils ont toléré des compromis en milieu, puis je veux dire, quelque part, ça, dans nos vies, c'est la même chose. Dès qu'on commence à ouvrir des portes à des compromis qui ne sont pas de Dieu, c'est jamais de Dieu, je sais.
Il y a des conséquences.
Il y a des conséquences.
Ben, oui.
Puis il faut dire que à cette époque-là, c'était surtout les femmes qui s'occupaient des enfants. Donc les valeurs de la mère étaient directement transmises. Mais encore aujourd'hui, là, mais je veux dire, à cette époque-là, c'était surtout comme ça. Donc, pour ça qu'on se ramasse dans les juges, je ne me rappelle pas dans quel chapitre, mais où on voit, c'est cité que le peuple, ses enfants, n'avaient pas entendu les exploits que l'Éternel avait fait dans le peuple après plusieurs générations. Donc, ça s'était éteint, c'était perdu.
En fait, en attendant cela, c'est que Dieu a toujours ses raisons. Il ne fait pas ça, mais ça. Mais on est vraiment... On a pris des cœurs de pierre là pour ne pas obéir. Et on n'est pas à l'abri. Mais heureusement qu'il y a la parole qui nous ramène de temps en temps.
Je pense à Jézabel.
Jézabel, c'est le...
C'est la femme, c'est... tu vois, ouais. Il y a pas d'Israël. C'est peut-être pas la femme à marier, même si on est israélite.
Alors, je me fais... Moi, j'ai mis cette Éphésiens 3:8, comme Paul a dit, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Je ne sais pas si... À quoi vous pensez à ce verset-là? C'est...
À cette phrase. La version, il parle de richesse incompréhensible.
C'est ça, incompréhensible.
Ça fait toute une différence pour moi, cette fois, ça. Des richesses qu'on a là, on ne peut pas les comprendre. Mais c'est tout ça qui sont cachés à Jésus-Christ. C'est la découverte, et ceci, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, Paul, dans le premier chapitre, dans le verset. De chapitre 2, la chose, au chapitre 1er déjà, tu vas prier pour que les frères d'Éphésiens puissent comprendre la portée de la résurrection, la puissance de la résurrection, ce que Dieu a accompli à travers Jésus-Christ, qui va permettre que ces païens-là, qui ne disent pas, premièrement, des gens qui sont venus maintenant un peuple, qui n'étaient pas un peuple, c'est riche.
Oui. Et Paul disait ça.
Humilité devant Dieu. Ça manque beaucoup quand on regarde le chapitre qu'on vient de lire. Où le peuple s'arrachait en frère la gloire
d'une bataille
que Dieu que avait. Tu
avais. C'est
vraiment une grâce.
C'est ça.
Il a cru comprendre ça.
On voulait la gloire. L'homme fini, on cherche la gloire. On ne trouve plus la richesse insondable de Dieu là. Parce que ça nous aveugle tellement là cette. C'est même pas la gloire, c'est toutes les choses qui s'ouvrent devant nous dans cette vie hostile à l'Évangile. Ça pourrait être. En passant avec ce verset-là, vous voyez ce que les contrastes dans l'histoire, là, comme Ruth, Rahab, Ahab, moi je tendance à parler en malgache le nom, à se souvenir le nom malgache, qui va être des héros, ils sont dans la. En Matthieu 1. Les deux sont dans, oui, c'est ça. En Matthieu 1, là, ou 2, ils sont là. Mais c'est vraiment des autres, des femmes, des autres. On a parlé tantôt des femmes qui inculquaient des fausses valeurs dans la vie des Israélites, mais il y a quand même des femmes, des bonnes. C'est ça qui nous surpasse, là. Qui nous surpasse, là. À quel moment? Comme Jephté Abimelech, ça nous surpasse. C'est que j'invite tout simplement que Dieu est le maître de l'histoire. Peu importe ce que nous faisons, mais on est responsable. L'orgueil de tri, il nous pousse dans la perdition. Mais ben, pas l'orgueil, mais là, c'est l'orgueil qu'on a vu tantôt. Il utilise chaque homme selon son désir. L'homme est tordu, Dieu est juste et sans faute. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est maître de l'histoire. Malgré ce que toutes les vices de l'humanité, là. Mais c'est ça, c'est que les autres ne comprennent pas.
Souvent, il y a une phrase qui me revient, c'est que Dieu accomplit son œuvre parfaite avec des gens et des moyens très imparfaits. Puis c'est ça qui est la gloire de Dieu. Juste un petit renseignement, j'ai regardé le mot shibboleth, là. Puis le mot hébreu signifie un épi ou un torrent. Puis là, ce qui est bon, c'est que le mot shibboleth est encore employé aujourd'hui. en 2026. C'est un test linguistique ou culturel qui démasque l'origine ou l'appartenance d'une personne.
Avec, ils ont bien utilisé le mot chipolette pour connaître l'origine. Là. Chipolette.
D'avoir été choisi. Dans Jean 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne.
Oui. Puis un passage que j'ai lu, pas choisi parce que tu es un grand peu comme ça, puis ça, ça continue en disant, tu es choisi parce que je t'aime.
C'est ça.
Par amour. C'est pour ça qu'on a été choisis, là. Parce que Dieu nous aime. Point à la ligne. On n'a pas rien à dire.
C'est
ça. Il nous aime, puis c'est ça. Je ne pas dire qu'il n'aime pas les autres, mais nous, il nous a aimés d'une façon particulière en nous. C'est ça. En nous mettant en bas, en nous adoptant, puis en fait, c'est ça. La grâce de Dieu.
En fait, cette élection, notre élection, c'est. Mais ça rapporte vraiment à cette. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que l'élection, c'est pourquoi Dieu est-il. Il y a un nombre de doutes dans la capacité de Dieu de choisir quelqu'un, parce qu'il y a cette élection-là, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Tout le monde dans la vie va être dirigé vers la perdition. C'est ça.
Naturellement,
c'est ce qu'on nous
dit. La vraie justice, ça serait que tout le monde aille en enfer.
Depuis, c'est comme ça. Et...